Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rim Trabelsi, cofondatrice de l'application Clear Fashion. Clear Fashion, c'est une application qui vous permet de consommer la mode de manière responsable. Il vous suffit d'entrer le nom d'une marque et d'avoir l'analyse complète de sa démarche et de sa transparence, et de savoir si c'est une marque qui est alignée avec vos valeurs ou non. Dans cet épisode, Rim nous partage comment elle est passée d'ingénieur agronome à entrepreneuse dans la tech et dans le domaine de la mode responsable. Elle nous explique quel a été son déclic, par quoi elle a commencé et comment le projet s'est développé avec son associée Marguerite. Elle nous partage aussi l'importance de ne pas avoir peur de ses ambitions et comment elle s'entoure aujourd'hui pour continuer à grandir et à progresser. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Justine Vadata qui a laissé le commentaire suivant. Merci à toi de nous partager. Merci à toi de nous faire partager autant de choses via tes interviews. Merci à toi de nous faire partager autant de choses via tes interviews. Les personnes que tu nous présentes nous enrichissent tellement de leurs expériences. Bravo, c'est un vrai bonheur de vous écouter, toi et tes invités. Merci beaucoup à toi Justine et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire vos mots et de savoir que le podcast a pu vous aider. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Rim. Bonjour Rim.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur In Power, je suis ravie de te rencontrer et de te recevoir. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Alors moi je m'appelle Rim Trabelsi, j'ai 26 ans, j'ai une formation d'ingénieur agronome et je suis la cofondatrice de Clear Fashion. C'est une application qui permet de s'informer avant d'acheter des vêtements pour choisir des vêtements éco-responsables. Okay. On essaye d'aider les consommateurs à mieux consommer.
Est-ce que tu as toujours eu cette conscience écologique? Est-ce que tu as toujours eu cette fibre, un peu, j'ai envie de dire? Enfin, c'était quoi un peu ton parcours vis-à-vis de ça et même au-delà de ça quand tu étais plus jeune?
Alors en fait, ça a commencé plus dans l'alimentaire. Moi, donc, j'ai une formation agronome, donc ça veut dire qu'en fait j'ai fait une prépa bio, ça m'a passionnée, la biologie, les êtres vivants, et la prépa bio ça amène soit à vétérinaire, soit à agronome. Moi j'ai choisi l'agronomie, et notamment parce que en fait à l'époque il y avait des enquêtes tu vois sur M6, sur TF1, sur l'industrie agroalimentaire, sur les monstre de l'industrie agroalimentaire, sur l'impact sur notre santé nutritionnelle, sur ce qu'on consomme, sur tu vois, les problèmes qu'il y a eu, par exemple, avec la viande de cheval, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les agronomes qui faisaient ça, en fait, parce que c'est eux qui optimisent la chaîne de production alimentaire. Du coup, je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Je commençais à lire les étiquettes, à me dire, mais c'est quoi ces additifs? Ça vient d'où? Mais en fait, ce qu'on mange, c'est vraiment naze, quoi. Ce qui nous est proposé, c'est abusé, en fait, tu vois, je me disais ça. Et j'en parlais beaucoup avec mes amis. Je devenais un petit peu experte là-dessus. Et du coup, c'était un peu une évidence, quand je suis allée en agronomie, de choisir des filières pour comprendre l'industrie agroalimentaire. Surtout, tu vois, comprendre comment est-ce qu'on produit la nourriture qu'on achète dans des magasins et comment en fait, ces ingénieurs-là qui vont optimiser les produits alimentaires vont faire pour le faire. Pourquoi ils vont prendre des décisions et mettre des conservateurs qui sont pas forcément utiles? Pourquoi ils vont prendre des décisions pour mettre des... Et tu vois, je voulais essayer de comprendre ça. Donc c'était la base de... Je pense que c'est ça qui m'a au début beaucoup sensibilisée. Et après, le déclic, ça a été tout simplement de me dire, j'essaie de consommer différemment dans l'alimentaire. Tu vois, quand t'es agronome, en vrai, franchement, les mecs qui optimisent et mettent des conservateurs, hein, c'est pas du tout ceux qui achètent dans la grande distribution. Hein. Et c'est pas ceux qui vont acheter des produits, tu vois, qui... Enfin, je sais pas, les plats préparés et les trucs en conserve. Hein.
Ils le font, mais ils n'en consommeraient pas, quoi.
Franchement, c'est ceux qui achètent en court-circuit, qui achètent en AMAP et qui achètent bio, en fait.
Ouais.
C'est ceux qui se rendent compte que dans la salade il y a énormément de pesticides et donc qui savent que il y a des alternatives. Donc moi en fait le déclic ça a été j'essaie de consommer différemment, premièrement pour mon corps à moi, donc je vais je sais comment éviter des produits alimentaires qui sont nocifs pour mon corps. En plus de ça, je sais que en achetant des produits alimentaires proches auprès de producteurs locaux, en court-circuit ou en passant par la ruche, en passant par des trucs comme ça, déjà, je peux soutenir des agriculteurs parce que nous aussi, on est formés à ça. Donc, on a des stages en ferme et tout. On va
trop
voir.
Cool.
Ouais, c'est trop cool.
Tu veux nous en parler brièvement juste parce que moi, c'est un truc qui me fascine, la ferme.
C'est trop bien. Franchement, j'avoue, la formation à agronome, je la conseillerais à tout le monde. Et d'ailleurs, je me dis même, ça devrait être un service civique, ça devrait être un truc obligatoire. Tu vois, la JAPD, on devrait avoir obligatoirement peut-être le travail en usine pour voir ce que c'est.
C'est vrai.
Et aussi auprès des fermiers,
des agriculteurs.
Parce qu'en fait, on se rend pas compte de ce que ça veut dire de faire la nourriture pour pour son peuple, quoi, en
c'est
fait.
Clair.
Et moi, du coup, j'ai choisi. Donc, c'était obligatoire chez nous. C'était 8 semaines.
Ah oui,
c'était en 3 temps. Donc, c'était à chacune de nos vacances la première année. Donc, la première fois, c'était en octobre. Après, c'était en avril. Et après, c'était l'été. Et moi, j'ai choisi vignoble et oliveraie. Franchement, c'est un choix plutôt simple, plutôt confortable. Parce que c'est pas les agriculteurs qui en pâtissent le plus. Je pense que les plus difficiles stages, c'est quand tu fais dans l'élevage.
Mm.
Ouais, c'est le plus dur, franchement, dans le bovin et tout, parce que là tu te lèves à 4 heures, des fois t'as des problèmes la nuit, t'as des accouchements, tu dors peu du coup, t'es complètement dans un autre rythme. Les agriculteurs, ils ont pas beaucoup d'argent, ils sont vraiment il y a un rapport de force avec l'industrie qui fait qu'ils achètent pas cher. Dès qu'il y a un problème, toute ta production, elle part. Enfin, c'est assez terrible. Et en plus de ça, ils peuvent pas prendre de vacances parce que c'est des êtres vivants.
C'est clair, ils peuvent pas dire au poule, ciao.
C'est ça, tu peux pas dire à tes amis, est-ce que tu peux garder mes 20 vaches ou mes 100 vaches, tu vois. Moi, du coup, j'étais dans un vignoble et c'était coup plus simple, mais quand même, tu vois, on se levait à 5 heures, on finissait, c'est un travail, voilà, on finissait à 19 heures, mais t'es KO, tu vas mettre les amendements, donc nous, c'était du fumier de mouton, tu les mets sur les terres, après, tu vois les fruits pousser, tu les récoltes, tu comprends tous les risques qu'il peut y avoir, donc c'est-à-dire de maladies, tu sais que c'est difficile, en fait, comme métier, parce que il est hyper instable, tu sais pas comment va être la production au bout d'un an.
T'as aucun contrôle, en
c'est
fait.
Ça, c'est ça, exactement.
Ouais.
Et tu vois, le vignoble dans lequel j'étais, moi, c'était à Nice, ça s'appelle le Bélé, c'est un AOP qui est là-bas. Et en fait, c'est très petit, donc c'était 5 hectares. C'était vraiment assez paysan, en fait. Et du coup, en fait, il s'en sortait même pas financièrement. Donc le mec, il passait énormément de temps à faire ça. Sa femme, elle travaillait à côté, était infirmière, parce qu'en fait, il pouvait pas, tu vois, vivre avec juste l'argent des vignes et des olives. Du coup, en fait, tu te rends compte que c'est pourtant quelque chose qui est hyper important, qu'on consomme tous les jours. Là, je parle du vin, mais bon, il y a les autres produits agroalimentaires. Et en fait, c'est quand même les personnes qui sont les moins valorisées de notre
système
actuellement, en fait, tu vois.
Ouais.
Donc, en fait, on s'en rendait vachement compte pendant le Covid, d'ailleurs, parce que c'est des métiers qui roulent et qui continuent pendant ces périodes-là. Mais ils sont vraiment pas valorisés, quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, pour revenir, du coup, à mon déclic, donc c'était vraiment lié à ça. Et moi, mon déclic, c'était j'essaie de consommer déjà mieux pour mon corps, pour ma santé, mais aussi pour soutenir les agriculteurs, parce qu'en fait, ils en ont besoin. Et c'est pas les distributeurs, c'est pas la loi qui va les soutenir, en fait. C'est nous, en allant vers eux, en essayant de moins, tu vois, être sur les prix constamment. Voilà, c'est tout. J'ai rencontré Marguerite. Et avec Marguerite, on devait faire un projet.
Elle était donc dans la même école que moi.
Dans la même école que moi. On avait les mêmes convictions, on venait toutes les deux à vélo et tout. Enfin voilà, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire par la suite?
C'était où juste ton école?
On était à AgroParisTech.
C'est à Paris, du coup?
Ouais,
ok.
On était dans
et t'as grandi à Paris, toi, ou...
Moi, je suis née à Paris, mais non, je suis après partie avec ma famille, on est parti au Mans. Donc j'ai fait une grande partie de mon enfance au Mans. J'ai fait mon lycée à Angers, je suis revenue à Paris en prépa, Je suis partie à Toulouse, je suis revenue à Paris.
Voilà. Ok, t'as bougé. Ouais. T'as visité la France.
Ouais, j'ai pas mal visité la France. Et donc, j'ai rencontré Marguerite. On avait un projet à faire. Et en fait, on s'est dit, en fait, c'est le bon moment pour voir ce qu'on peut faire de nouveau. On n'a jamais étudié le secteur de la mode. Pourtant, on achète des vêtements. On connaissait maintenant l'impact de l'alimentaire. Pour nous, c'était clair. Donc, il n'y avait plus besoin de travailler là-dessus. On savait quelles étaient les meilleures alternatives et tout. Mais on s'est dit, finalement, on ne connaît pas le secteur de la mode. Pourtant, on achète des vêtements. Et c'est important, les vêtements. C'est important de se vêtir, tu vois. On n'est pas nus. Du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et peut-être qu'on peut trouver un projet à monter dans ce secteur-là pour réduire l'impact. Donc, la première chose qu'on a fait avec Marguerite, c'était... d'identifier tous les enjeux sociaux et environnementaux dans le secteur de la mode. Donc on a identifié tous les problèmes. Ça, c'était vraiment bouleversant parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes, tu vois, de travail forcé, de travail des enfants, des femmes qui... Enfin, vraiment, c'est de l'exploitation de femmes dans l'industrie du textile, notamment en Asie. On s'est rendu compte, tu vois, par exemple, moi, je lisais des rapports de l'ONU, quand même, tu vois, où ils te disaient que pour quand t'achètes un soutien-gorge, les bretelles, souvent, c'est fait par des enfants. Et en fait, ils sont exploités à le faire et ils gagnent même peanuts à la bretelle qui a été mise au fait de la mettre, en fait, dans le soutien-gorge. Et ils ont une pression de fou. Et c'est des enfants, quand même, tu vois. C'est dingue, en fait, de voir ça. Ensuite, on se rendait compte... de l'impact environnemental, mais alors là c'est abusé, tu vois, on lisait des trucs genre 70% des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie textile, ça a un impact déjà sur la biodiversité, mais ça a un impact aussi sur les peuples qui vivent à côté de ces cours d'eau, en fait. Quand nous, on est agronomes en plus, donc on comprend que l'impact environnemental, c'est aussi un impact sur les hommes qui vivent à côté, les hommes et les femmes. Et en fait, quand t'as un cours d'eau qui est pollué, ça va dans l'eau du robinet, le cours d'eau, il va aussi irriguer les plantes qui est autour, que nous on va acheter aussi en France, hein, d'ailleurs, hein, tu vois, quand on achète du riz et tout, c'est ça. Ouais. Donc ça a un impact énorme. On se rendait compte aussi des problèmes de maltraitance animale. Quand tu sais que il y a des animaux qui se font tuer pour juste avoir leur fourrure. Enfin voilà, plein de problèmes. Mm. Et on s'est dit, c'est dingue, parce que nous, notre conviction, c'est on a quand même beaucoup de connaissances dans notre société actuelle. On est capable de construire des fusées quand même, tu vois. Et on n'est pas capable de créer des solutions pour créer des vêtements dans des bonnes conditions, c'est dingue. Donc on va essayer de trouver les solutions. Et en fait, on se rend compte que au problème, par exemple, tu vois, des cours d'eau qui étaient pollués, par exemple avec le tannage, ben en fait, t'as quand même des solutions. Donc il y a des solutions qui existent, techniques. Au problème de la matière, la matière, ça consomme beaucoup d'eau, par exemple. Et ben t'as des solutions qui consomment moins, qui existent. Il y a des endroits où les femmes sont exploitées, où il y a du travail forcé, mais il y a des endroits où les femmes sont valorisées, où justement ça permet aussi l'empowerment des femmes dans certains pays, ça permet de créer de l'emploi en France, etc. Et en fait, on se dit, mais finalement, c'est pas un problème technique, tu vois, on n'a pas besoin de créer une solution technique, genre une nouvelle teinture, une nouvelle matière, ça c'est un peu notre façon de penser normalement d'ingénieur.
Ouais.
En fait, on a eu un déclic en voyant tout ça, on s'est dit, mais il y a des solutions pour tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, nous, en tant que consommateurs, on le voit pas. On voit pas les procédés, on voit pas les matières, on sait pas quelles sont les meilleures matières, on sait pas où est-ce qu'on achète des produits qui ont été faits dans des bonnes conditions de travail aussi. Et en fait, si les consommateurs avaient ces informations, c'est évident que toi, tu vois, tu vas pas aller vers... Si t'as le choix et que t'as l'info, tu vas pas aller vers un produit qui pollue et qui a été fait par des enfants.
C'est clair.
C'est évident. Donc en fait, le truc, c'est le manque d'informations. Le manque d'informations va faire en fait que ça maintient le système tel qu'il est, parce que du coup, y a aucun intérêt à aller vers des produits mieux. Et ceux qui font la démarche d'aller dans des trucs mieux sont pas forcément valorisés. Et ils sont pas forcément visibles, ils sont pas forcément compétitifs par rapport aux autres, ils arrivent pas à justifier les prix plus élevés, tu vois, des vêtements. Finalement, ça n'arrange personne. Du coup, on s'est dit, en fait, le problème, c'est le manque d'informations. On a regardé dans la loi, Qu'est-ce qu'il y a? Les seules informations obligatoires, c'est quoi? C'est la composition. Ça ne nous apporte rien du tout. Le made in, c'est facultatif. En plus de ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu vois, ça apporte pas énormément d'informations sur... c'est pas parce qu'il y a écrit made in France que, en fait, que le produit il a été confectionné en France. Ça se trouve, c'est juste une dernière broderie. Ça se trouve, c'est les derniers accessoires qui ont été ajoutés. Mais souvent, en fait, quand il y a écrit made in France... C'est même pas, enfin, ça va même pas au niveau de la confection, en fait. Donc, au final, le made in nous apporte rien. En plus, il est facultatif. On voit que il y avait une loi en 2011 qui visait à ce qu'il y ait un affichage de l'impact environnemental des vêtements. Mais en fait, c'est sur une démarche volontaire. Du coup, bah, personne n'y va. En fait, qui veut aller noter ses vêtements sur l'impact environnemental si les autres le font pas, si c'est pas obligatoire. Donc en fait, on se dit bon ben, en gros, on voit le problème, c'est que il faut rendre obligatoire. Comment on va faire pour rendre obligatoire l'information? Nous, on va essayer de construire un truc. Donc on s'est dit, en fait, faut pas laisser le choix quoi, en fait, aux marques. Il faut construire une solution qui permette déjà d'informer les consommateurs avec l'information qu'on a, qu'on va trouver pour eux, qu'on va aller, on va chercher, on va investiguer sur les marques, sur leurs pratiques, on va leur donner les infos. Et si en plus de ça, on arrive à convaincre les marques à nous en dire plus sur leur chaîne de production, sur la manière dont ils produisent, bah, c'est jackpot, tu vois. Mais au début, en fait, on va faire en sorte qu'elles aient même pas le choix, en fait. Et c'est comme ça qu'on a construit, du coup, la solution, tu vois. C'était vraiment l'idée qu'on avait, c'est de se dire, bah, en fait, il faut de l'information. On va pas attendre les pouvoirs publics, parce qu'en fait, ça fait depuis 2011 qu'ils essayent de le faire. Ça avance pas. Ça avance vraiment pas, tu vois. on va pas attendre de réglementation ou quoi que ce soit. On va pas attendre que ce soit les marques elles-mêmes qui le fassent. De toute façon, ça n'aurait aucun sens. Il faut qu'il y ait un acteur indépendant. Bizarre qu'il y ait personne qui l'ait fait. Mais du coup, on s'est dit... Avec Marguerite, vraiment, on se disait, mais pourquoi personne le fait? C'est trop bizarre, en fait. Enfin...
Bah, c'est un gros travail de recherche, ouais. Mine de rien. Évidemment, il y a, je pense, une part de lâcheté aussi parce que t'as peur des répercussions potentielles, etc. Après, c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas le décalage qu'il y a entre la prise de conscience vis-à-vis de l'alimentation et la prise de conscience vis-à-vis des vêtements. C'est-à-dire, t'as vachement de gens qui consomment bio, qui utilisent l'application Yuka pour regarder la valeur nutritionnelle des aliments, etc. Mais qui vont acheter chez H&M.
Ouais, bah en fait.
Et parce que, encore une fois, comme tu dis, c'est un manque d'informations et il y a eu vachement de documentaires sur la réalité de l'industrie alimentaire. Enfin, je sais pas combien
exactement.
De personnes me citent des documentaires Netflix sur X ou Y sujet, sur la mode responsable.
Bah, oui.
Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue pour faire un reportage sur les coulisses des enseignes chez qui tout le monde achète. Parce que, comme tu dis, je pense qu'une fois qu'on sait, on peut pas fermer les yeux, quoi.
Bah, c'est ça.
Et ouais, c'est...
En fait, c'est très récent.
Comme tu dis, c'est le pouvoir, quoi.
Ça arrive, tu vois, parce que avant, justement, c'était beaucoup les scandales alimentaires. Donc là, c'était Capital, Enquête Exclusive, qui faisait des trucs sur ça. Et c'est vraiment... Franchement, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est pareil pour les petits pois. Bah, tu vas avoir des enfants qui vont travailler et tout. C'est la même façon de concevoir le système. Hein. Donc c'est juste un produit différent. Mais il y avait déjà ça. Ça fait quand même longtemps, tu vois, qu'on en parle. La mode, on commence de plus en plus à en parler, mais ça reste encore très peu visible. Mais tu vois, il y a eu Cache Investigation, par exemple. Ils ont beaucoup parlé de ça et ils ont ciblé quelques marques. Ils sont allés investiguer. Ils ont vu justement le travail au Bangladesh. Donc ils en ont parlé. Il y a eu quelques scandales aussi, notamment avec le Rana Plaza qui a chuté. Il y a eu à un moment, il y avait écrit dans les étiquettes de Nike "Help me". Il y a des petits mots qui ont été laissés par des personnes qui avaient été qui étaient en fait enfin c'est de l'esclavagisme moderne en fait. Donc il y a eu des scandales comme ça, mais c'est vrai que je pense que le problème c'est que on sait en fait, franchement je pense que même les gens savent, tu vois, nous on faisait de l'exploration, on allait dans les boutiques genre dans les boutiques de fast fashion etc, on demandait aux gens quand tu vois ça ça te fait quoi? Et les gens savent. Enfin, ils vont pas te dire, moi, quand je vois Bangladesh, ça me fait rien. Ils te disent, moi, quand je vois Bangladesh, je sais ce que ça veut dire, mais j'ai pas d'autre solution. Et c'est pas parce que je vais acheter Made in France que ce sera mieux. Parce que ça se trouve, en fait, ça vient pas du même endroit. Donc, et du coup, ils se disent, du coup, moi, je veux juste pas me faire arnaquer, en fait. En gros, je sais que c'est terrible, mais il faut que j'achète des vêtements, mais j'ai pas envie de me faire arnaquer, et j'ai l'impression que les marques qui disent qu'elles sont éco-responsables, les marques qui, tu vois, qui sont plus chères, c'est pas pour autant que c'est pas produit dans les mêmes conditions. Du coup, bah en fait, étant donné que j'ai pas d'infos et que j'ai pas d'alternative, bah je fais comme ça. Tu vois, donc en fait, je pense que les gens savent, mais ils savent qu'il y a un problème. Et je pense que c'est pour ça que les gens culpabilisent, en fait. Tu vois, ils culpabilisent beaucoup. Quand tu vois Made in Bangladesh, ça te fait pas plaisir, tu vois. Tu te dis pas, je suis en train de souvenir un truc, tu vois.
Ouais, mais il y a savoir mais, et savoir. Enfin, j'essaye de réfléchir par rapport à quel était mon rapport à la mode. Oui, en effet, il y a 2-3 ans, je savais que c'était pas top d'acheter du Made in China, du Made in Bangladesh. Mais je ne savais pas vraiment.
Ouais.
Et en fait, quand je me suis vraiment renseignée, quand j'ai compris ce que ça signifiait, quand j'ai compris qu'en fait, tu te fais plus arnaquer, justement, quand tu achètes un t-shirt à 5 euros, que quand c'est un t-shirt qui en coûte peut-être 20, mais tu sais que la matière derrière, elle ne pollue pas la planète, qu'elle n'est pas nocive pour ta peau, et que les travailleurs ne sont pas exploités, tu vois, là, tu sais. Et c'est, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y a savoir et savoir. Et la bouffe, c'était un peu pareil. Genre, je pense que les gens qui achetaient des plateaux préparés, ils savaient. Mais il y a une espèce, quand même, de sensibilisation de masse. Et encore une fois, enfin...
Mais je pense
que... Cache-investigation, je pense que c'est efficace. Mais par exemple, notre génération, enfin, moi, je regarde jamais, tu vois. Alors, Netflix, quand même, personne regarde. Il y avait un documentaire, je viens de me rappeler, il y a des True Cost, quand même, que je conseille aux personnes qui nous écoutent, mais il est plus sur Netflix. Donc
je pense que tu peux le trouver quand même assez facilement sur mais oui bah je pense aussi moi franchement je pense que il y a le manque d'information, le fait que tu vois l'alimentaire, on peut quand même imaginer, on sait que quand on achète un steak ça vient d'un bœuf quoi, alors que tu vois quand tu vois lyocell, tu sais même pas ce que ça veut dire, tu sais même pas où c'est fait, t'as aucune idée de la manière dont c'est produit. Un jean, tu sais pas comment c'est fait, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même un produit tellement complexe que même tu sais pas comment c'est fait, tu peux même pas imaginer quels sont les impacts. C'est quand tu commences, toi, tu vois, tu crées une marque, c'est quand tu commences à créer une marque ou même à t'intéresser au truc,
c'est
que tu te dis, waouh, en fait, ça... En fait, ouais, c'est plein d'étapes, c'est complexe, c'est normal qu'il y ait de la matière et que ça ait une valeur. Il y a des gens qui travaillent, en fait, à faire du fil, à faire du tissu ensuite, à le confectionner, à coudre les trucs ensemble. Et c'est seulement après que moi, ça arrive chez moi, tu vois, dans ma boutique, quoi. Mais quand tu sais pas ça, t'as l'impression peut-être que, tu vois, tout a été fait en un coup, en fait.
Non,
tu sais pas.
Pas du tout. C'est même pas avant,
Moi, il y a encore des gens qui me disent, mais du coup, il y a pas de coton en France. Mais non, il y en a très peu. Enfin, c'est franchement, il y a pas de coton en France, quoi. Il y a des gens qui savent pas ça, enfin c'est normal, tu vois, il y a des matières, même moi, tu vois, je sais même pas trop ce que ça veut dire, le modal et tout, je les catégorise, mais c'est très difficile de savoir, tu vois.
Non, c'est vrai, et c'est pour ça que j'espère que faut aussi rendre l'information plus digeste, quoi, parce que Made in France, c'est pas non plus, ça veut pas tout dire, ça veut pas, enfin, on sait que c'est bien, mais si derrière, pour moi, la matière, c'est du polyester, qu'il y en a du pétrole, bah, en fait, c'est pas top, et c'est pour ça aussi que j'essaye de faire, tu vois, des infographies un peu simples, et j'en avais relayé pas mal en story, et je suis contente parce que les gens m'ont dit, super, j'ai fait un screen, et maintenant, je sais, quoi, parce que j'ai un petit comparatif, pourquoi le coton, en fait, c'est beaucoup moins bien, parce que ça... prend énormément d'eau, etc., que le lyocell dont tu parlais, que le tencel, que les veaux issus de l'huile de ricin que nous on va utiliser pour je ne sais quoi. Mais du coup, bon, bah ça c'est top, je pense qu'on a bien abordé la partie problématique et ce à quoi vous essayez de répondre. Et maintenant, plus pour la partie réalisation, vous avez cette idée, est-ce que vous pensez direct à monter une boîte, enfin est-ce que aujourd'hui c'est une activité dont tu vis, est-ce que c'est un projet auquel tu te consacres, parce que tu vois, je pense que beaucoup de gens veulent faire bouger les choses, mais après il y a une réalité financière derrière,
c'est clair,
c'est pas simple.
Ouais, en fait nous franchement c'est trop drôle, on est ingénieur agronome, on n'était pas du tout, tu vois, en plus dans notre école il y avait une spécialité entrepreneuriat, on n'a jamais fait ça. On n'avait jamais eu cette idée là avec Marguerite, franchement initialement c'était pas du tout notre objectif, enfin on n'avait pas, tu vois, on se disait pas il faut qu'on crée une boîte, on va créer une boîte un jour ou quoi, hein. Non, c'était juste quels sont les problèmes, on va trouver une solution, enfin en vrai c'est une façon de penser ingénieur, quoi, problème solution. Et on se franchement, je pense que le manque de bagages peut-être entrepreneurial ou de formation entrepreneuriale ne faisait pas dire on va faire du biz dessus, tu vois. Donc initialement c'était juste ça. Donc nous franchement c'est juste c'est une industrie qu'on connaissait pas. On a découvert des problèmes dans cette industrie qui étaient graves. On s'est dit on va essayer de trouver une solution. c'est trop bizarre qu'il y ait personne qui se penche sur ce sujet, que ce soit en France ou ailleurs. Il faut qu'on crée un truc, quoi. Enfin, franchement, c'est presque un truc de responsabilité où on s'est dit, bah, personne ne le fait, il faut qu'on le fasse, en fait.
Il n'y avait pas de Good on You à l'époque ?
Allez, on ne connaissait pas encore.
D'accord.
Nous, on ne connaissait pas.
Ouais.
On n'avait pas peut-être fait cette veille, tu vois, mais on n'avait pas découvert ça. En tout cas, en France, il n'y avait rien.
C'est clair.
Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Franchement, on avait 24 ans, hein, donc on s'est dit, on va créer une page Facebook. On l'a appelée, je ne sais plus au début le nom... on avait un nom en premier, après on s'est appelé Closeparency, on s'est dit Closing Transparency, franchement pas très beau nom, mais tu vois le truc d'ingénieur quoi.
Straight to the point.
mais c'était pas très joli. Donc on s'était dit ça, on a créé cette page et on s'est dit, bon, il y a plein de problèmes, on a fait juste une sorte de manifeste en fait, genre il y a plein de problèmes. Nous, on pense qu'il faut qu'on crée une solution pour apporter de l'information aux consommateurs. Si vous pensez comme nous, venez avec nous et on crée une communauté et on va construire le truc ensemble. En fait, le truc, c'est que si on construit que moi et Marguerite, ça va être un truc d'écolo ingénieur. Il n'y a que nous qui allons comprendre ça, en fait. Du coup, il faut qu'il y ait de tout le monde, plein de gens différents pour qu'on construise cette solution ensemble. Donc, on a fait ça et du coup, on a créé un questionnaire. Et en, je sais pas, franchement, en 10 jours, il y a eu genre 1500 réponses, un truc comme ça.
Et ça a été. Parce que vous n'étiez pas du tout sur les réseaux à la base, vous n'aviez aucun contact.
Juste, on a créé un questionnaire où on a mis, je ne sais pas, une solution, enfin, s'informer pour mieux consommer ou pour choisir des vêtements éco-responsables. Et du coup, on essayait de voir quels étaient les freins. On essayait de proposer des premières solutions, genre, est-ce que si je crée une application, ça t'intéresserait et tout. Si t'es intéressé, laisse ton mail. Et l'idée, c'est qu'on construise le truc ensemble. Dis-nous si t'as le temps, voilà. Et voilà, franchement, là, on a eu énormément de demandes. Il y a plein de gens, mais je te jure, nous, on était étudiantes à ce moment-là, on recevait des messages incroyables de gens trop motivés qui nous disaient, mais c'est trop bien votre projet. En fait, comme si, en fait, ils ont choisi un peu pour nous, parce qu'ils nous ont... C'était comme si c'était bon, c'était lancé comme projet, tu vois. On nous attendait, quoi, en fait. La plupart des questions qu'on recevait, c'est quand que ce sera disponible. Donc, en fait, on se disait, OK, on va devoir se mettre dedans, mais quand est-ce qu'on leur dit qu'en fait, c'est juste un projet d'étude ? Est-ce qu'on leur dit ? Donc, au début, on a laissé un peu le flou, et là, on a commencé à avoir l'Institut français de la mode qui nous contactait, la Fédération du prêt-à-porter, LVMH nous a contactés, la direction innovation du groupe, des marques qui nous contactaient. On s'est dit, mais en fait, peut-être qu'il y a un vrai problème, quoi.
Et tout ça, vous aviez que la page Facebook.
On a fait
envoyer, je sais pas, à des médias, parce que tu sais, parfois il y a des gens qui veulent, enfin des gens qui écoutent le podcast, qui veulent lancer leur projet, mais qui se disent, si je lance un truc, personne va le voir. Est-ce que vous avez eu des petites stratégies pour essayer, franchement, de faire en sorte que ce soit visible?
On est en cinquième année du coup, d'études là, et on avait fait une année de césure avant. Donc je pense qu'on avait quand même un petit réseau, puisque en plus on était engagés, on était dans le développement durable. Donc Marguerite et moi, on avait fait trois stages au total chacune dans le développement durable, tu vois. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a publié, on a fait une page Facebook où il y avait personne, mais voilà, et ça a été partagé. Ensuite, on l'a publié chacune sur nos pages, on l'a publié sur LinkedIn ah oui, après on a créé, mais parce que c'était dans le cadre de notre projet, on a créé un site web où on mettait juste, il y avait rien, il y avait juste ce qu'on avait mis comme message pour l'enquête, et après un truc où on mettait, mettez votre mail, tu vois, juste on vous contacte quand ça avance. Et franchement, c'est tout.
Quoi.
Non, ouais, on n'a rien fait de plus, tu vois. Et les gens, en fait, sont s'en emparés parce que, après, je pense que le message, il était fort, dans le sens où on disait, il y a un gros problème. Et là, en fait, on ne va pas pouvoir le construire toute seule. On a besoin de vous. Il faut pas. En fait, on était assez clair sur le fait qu'on est ingénieur. On veut pas créer un truc d'ingénieur écolo. On veut créer un truc qui démocratise l'information. Du coup, envoyez-le à votre père, envoyez-le à votre mère, envoyez. Tu vois. Après, quand on avait de plus en plus de répondants, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de 18-24 ans comme nous. Et on se disait, c'est pas représentatif, ça va pas nous aider pour construire une solution qui soit vraiment représentative et accessible, inclusive. Du coup, on a renvoyé un mail aux gens pour leur dire, il nous manque des âmes et il nous manque des personnes de plus de 34 ans envoyées. Et en fait, les gens participaient à fond parce qu'on construisait le truc ensemble, tu vois.
Ouais, ouais.
Et en fait, ils comprenaient, tu vois, pourquoi est-ce qu'on demandait ça. Donc, je pense que c'est comme ça, franchement, que ça s'est fait initialement. Et pour te dire à quel point, tu vois, c'était même pas dans notre tête de dire on va créer un truc, on va se mettre à plein temps et tout initialement. Notre prof nous dit super le projet et tout. On fait la soutenance. On laisse le bébé comme ça, mais finalement, on répond encore parce qu'on sent qu'il y a un problème et on sent qu'il n'y a pas d'autres personnes qui prennent le truc en main. Donc, on se dit, bon, ben, on va le faire un peu en plus de nos, enfin, de nos études. Et l'autre prof nous dit, est-ce que ça vous dit de faire votre stage de fin d'études en construisant votre projet ou votre,
cool.
Tu vois, il nous dit
ouais.
ça. Et pour te dire, on n'était même pas encore dans cette optique. On s'est dit, non, on va faire un stage. Non, mais tu vois,
ouais.
genre, on s'est dit... non, on va le faire en plus. On n'était pas sûr, tu vois. On s'est dit, enfin, on sait pas ce que ça va devenir
ouais,
ce truc,
ouais,
tu vois.
Vrai,
en plus,
vrai.
Moi, j'ai pas d'argent. Je sais pas comment ça va se passer. Donc, moi, j'ai envie quand même d'avoir un métier, peut-être de la stabilité. Du coup, on s'est dit toutes les deux, on va faire un stage, mais dans un truc qui nous convient. Moi, j'ai fait, du coup, j'étais consultante en stratégie de développement durable. Je travaillais dans une boîte de conseil super incroyable. La première mission qu'on me file, c'est identifier les risques sociaux et environnementaux chez des clients qui étaient dans la mode. Donc, j'analysais les fournisseurs, l'impact social.
Déjà fait.
Mais ouais. Et en fait, c'était une évidence, tu vois. Je me disais, c'est dingue. Je suis agronome. Donc, normalement, on doit me filer des sujets alimentaires. On me file un truc dans la mode. Rien à voir. Et c'est exactement le sujet que je voulais monter, mais plus pour les consos, pas pour les marques, tu vois.
Ouais.
Donc, je fais ça. Donc, et en même temps, je continue mon projet avec Marguerite, on en parle de temps en temps et tout. Et Marguerite, elle était dans une boîte. Et en fait, ça se passait pas super, tu vois. Elle était en développement durable. Mais elle se dit, mais en fait, je sais pas ce à quoi je m'attendais, tu vois. Genre, je vais pas pouvoir continuer.
Tellement de gens qui sont passés dans cette boîte m'ont dit ça.
Du coup, elle se dit, je vais pas pouvoir continuer. Donc, fin de stage, elle me dit, c'est sûr, je vais pas continuer, j'ai l'impression qu'il se passe un truc avec notre projet. Est-ce que ça te dit de te mettre à plein temps? Moi, j'étais dans ma boîte de conseil, ça se passait super bien. Vraiment, j'ai adoré mon taf et tout. Et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte de ce que me disaient les marques. Qui me disaient, ouais, mais nous, par exemple, on a envie de faire plus. Mais les consommateurs, ils le voient pas.
Mmh.
Mais moi, j'arrive pas à convaincre mon boss parce que les consommateurs, ils le voient pas. Si je fais ça, en fait, ça va nous coûter plus cher. Et en fait, tu vois, et en fait, ils disaient que des trucs comme ça. Et moi, je me disais, mais en fait, il y a un vrai truc, quoi, qui se passe en ce moment. C'est le bon moment pour lancer. Moi, ça m'a rassurée sur ça. Marguerite, elle était chaude pour le faire. Elle s'est dit, vas-y, à partir de septembre, on se met en plein temps. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que Marguerite... en fait, on discute, on se dit, on se met à plein temps à partir de septembre, c'est sûr. Genre, on s'engage toutes les deux. D'ailleurs, petite anecdote, à la base, on était trois. C'est ça le vrai truc aussi, c'est qu'on était trois à la base, il y avait Elodie avec nous. Je sais pas si elle écoutera d'ailleurs, mais Elodie. Et en fait, ça a été un gros moment, genre, hyper fort pour nous trois parce que c'était un peu notre petit bébé à la base. Et j'ai un ami qui est avocat qui me dit, si vous voulez vous engager, là, c'est le bon moment, mais il faut l'officialiser. Et il nous a dit le meilleur conseil. Franchement, il nous a dit, vous allez créer un petit contrat, juste un document, où vous allez vous engager l'une envers l'autre. Donc, vous devez signer le truc et vous dire, en fait, à partir de septembre, on donne tout pour construire ce projet. Marguerite et moi, on se dit, bah, ok, on le signe. Et Elodie, elle avait pas mal de doutes et tout. Et finalement, elle sort de l'aventure. Et ce moment, ça a été le début.
Mm.
À partir de là, en fait, c'était comme un engagement, genre, mais comme un mariage, tu vois.
Mm.
Genre là, on a signé le truc, on s'est engagé l'une à l'autre qu'on allait se mettre à plein temps, on va trouver les ressources pour le faire, tu vois. Et donc, on se dit ça. Et après, on fait un point et on se dit, bon, par contre, si on doit développer une app, comment on va faire, tu vois?
Faut la coder.
Faut la coder et tout. Marguerite et moi, on est un G, on se dit, bon, on s'est pas développé, mais on est quand même pas si mauvaise en maths. C'est à peu près pareil, tu vois. Et on a un truc, je pense, avec Marguerite. Notre force, je pense, c'est qu'on n'a pas de... J'avais entendu ce terme-là dans le développement personnel, de croyances limitantes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a quand même une confiance dans notre capacité d'apprentissage. Et on se dit pas du coup, on sait pas faire, on saura jamais le faire. On se dit, au contraire, on sait le faire, enfin, on sait pas le faire, mais on pense pouvoir le faire, c'est ce qui va prendre du temps. Il y a deux solutions, soit on s'associe avec quelqu'un qui est développeur, soit on le fait nous-mêmes. Si on s'associe, ça va être plus rapide, soit on le fait nous-mêmes, du coup, au moins, on est sûr, parce qu'on a eu l'idée ensemble, on a une confiance, on a une confiance qui est énorme, tu vois. Du coup, entre Marguerite et moi, du coup, c'est plus simple quand c'est l'une ou l'autre qui le fait. Et nous, on s'est dit, finalement, on a pas mal de retours d'expérience de gens qui nous disent « Développeur, c'est très difficile. Après, ils vont construire et après, peut-être, ils vont partir. Surtout si c'est pas lui qui a eu le projet en idée à la base et tout. » Donc, on se dit, Marguerite, elle se dit, on se dit toutes les deux, qui va le faire, qui développe.
Et vous avez tiré la course de paille
Non, mais presque. En fait, du coup, on s'est dit qui développe. Moi, franchement, je me suis dit, franchement, si tu veux, je peux le faire. Elle me dit, franchement, si tu veux, je peux le faire. Et en fait, après, on s'est dit, bah, tu sais quoi, Margue, fais-le. Parce que toi, de toute façon, tu veux finir en septembre. Moi, je bosse pour la mode. Ça nous fera du réseau en plus. Ça nous fait plus de connaissances. Et je termine ma mission. Du coup, tu fais ta formation de développeur. 4 mois au wagon.
Ouais.
Et en décembre. Du coup, pour le coup, moi, je me mets à plein temps. Donc, moi, ce que j'ai fait... Donc, à partir de septembre, elle s'est mise en formation au wagon. Et moi, mon ex-boîte, du coup, me propose un CDI. Je leur dis, OK, mais 3 jours sur 5. J'arrive pas... Enfin, c'était un peu trop, quand même. Ouais. Donc, ils me disent, OK, pour 4 jours sur 5. Je leur ai dit que je montais mon projet en plus et tout. Et du coup, tu vois, j'ai fait ça. Et après, j'ai démissionné, quoi. Mm. J'ai démissionné, mais ils étaient au courant. Et franchement, ils étaient incroyables. Du coup, je les remercie trop parce que c'est, je pense, ceux qui m'ont en premier soutenu sans même faire trop attention. C'est que du coup, moi je dis, je démissionne. Et mon boss, Thomas, me dit, Mérim, tu vas faire comment pour te payer et tout après? Je lui dis, bah tu vois, Thomas, moi franchement, avant j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup besoin d'argent. Au pire, je travaillerais chez Monop, tu vois, le week-end. Enfin, franchement, c'est pas grave et ça me paiera mon loyer et ma bouffe. Et lui, il était choqué. Il me dit, mais c'est pas possible. En fait, le problème, c'est que si tu démissionnes, t'auras même plus les appels, t'as rien et tout. Donc déjà, premièrement, Rémi, tu sais ce qu'on va faire? Rupture co. Genre, j'ai même pas... Genre, incroyable. Genre,
ah oui, tu l'as même pas demandé. Ah non, mais toi, t'étais prête
il m'a porté. Enfin, franchement, ouais, ouais. Moi, j'étais peut-être un peu trop naïve, parce que j'avais, tu vois, 24 ans et tout. Et franchement, il m'a trop aidée, tu vois, rien qu'en disant ça. Et après, il me dit, si t'es prête à faire 2 jours par semaine chez Monop, bah, tu continues ma mission, enfin, ta mission avec le groupe de mode, là. Jusqu'à ce que tu...
Enfin, sois autonome financièrement.
Quand tu veux, t'arrêtes. Mmh. En gros, quand tu veux, t'arrêtes. Et en plus, il me dit... Et quand t'arrêteras, je m'engage à te payer un truc en plus, tu vois. Genre, mais incroyable. Ah, et moi, là, franchement, je suis sur le cul, je parle plus. Il calcule. En fait, il me demande aussi... Parce que du coup, il me dit, je te prends 2 jours par semaine. Et il me dit, attends, t'as besoin de combien par mois Et du coup, il commence à estimer mon rythme de vie, tu vois. Et il me dit, il doit se dire, bon, bah, tu dois avoir besoin de temps. Bon, bah, ok, ça te va si je te donne temps pour tes 6 jours, ça te va. Moi, je me dis, mais c'est incroyable, tu vois, il cherche même pas. Il va même pas me dire, je vais te payer temps parce que c'est ça, non, non. Et en fait, il se dit juste, je vais te payer temps pour que tu puisses vivre, pour monter ton projet. Et en plus, c'est un projet, enfin, c'est en lien avec le sujet sur lequel tu bossais. Et quand tu veux arrêter, t'arrêtes. Et il m'avait dit un truc trop mignon, genre, moi, Rim, genre, j'ai adoré bosser avec toi. Et moi, je suis là pour t'aider à prendre tes ailes, tu vois, ton envol.
À prendre ton envol, ouais.
Waouh! J'ai trop de chance, tu vois.
C'est de la chance d'en rencontrer sur des personnes qui croient en toi, en ton projet aussi, quoi. Ça sort pas de nulle part. Et enfin, je vois trop un peu le côté où il s'est senti limite responsable, quoi. Enfin, tu vois, il a dû se dire, mais je vais pas la laisser, moi, de faim. Enfin, tu vois, c'est beau, quoi. Et puis, au final, les relations et les rencontres, ça fait beaucoup dans une aventure entrepreneuriale.
Bah ouais. Je pense que, alors, ça aide beaucoup d'être dans une boîte dans le développement durable. Parce que forcément, bah, t'as des convictions naturelles, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Le mec,
c'est ça.
On partageait des valeurs qui étaient fortes de base, qui font qu'on faisait ce métier-là aussi. Donc il y a ça déjà qui aide. Et je pense aussi le fait d'être très transparent dès le début. Moi, j'ai toujours dit que je montais mon projet. Il me posait tout le temps des questions. Des fois, on était dans un coworking, je le pitchais. Enfin, tu vois, ils m'accompagnaient. D'ailleurs, eux-mêmes, ils en parlaient avec leurs clients. Ils leur disaient, bah, moi, j'ai des salariés qui est 4 jours sur 5 et elle monte son projet à côté. Donc, tu vois, c'était aussi les nouveaux modes de fonctionnement. Et le fait d'en parler avec lui, je pense que du coup, il était un peu préparé aussi et il voulait me soutenir, tu vois.
Mm, mm, mm.
Mais bon, je pense que c'est de plus en plus. Il y a de meilleurs managers, je pense, de plus en plus. Mais c'est pas partout. C'est sûr que ça reste une chance. Maintenant, je crois que ça, c'est... D'ailleurs, c'est un peu mieux. Parce que quand tu démissionnais avant, t'avais vraiment rien. Maintenant, avec la loi Macron, je crois que tu peux quand même avoir le chômage. Mais voilà.
Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce qui se passe à partir de janvier? Donc, alors, juste au niveau date, c'était quoi, janvier 2019?
Là, c'est 2018.
2018, janvier 2018. Donc, vous passez à plein temps.
À plein temps.
Comment ça se passe, les premières semaines, les premiers mois?
Ouais, ce qui se passe, c'est que Marguerite, donc, elle fait sa formation Le Wagon, là. Et à l'issue de cette formation, alors déjà, formation Le Wagon, il y a un projet à faire avec trois personnes du wagon. Et il faut convaincre les autres à rejoindre ton projet. Donc, elle commence à pitcher ce qu'on appelait Close Parenti avant, donc Clear Fashion maintenant. Elle le pitch et ça marche. Elle a une équipe pour développer le premier proto. Et en gros, l'objectif final du wagon, c'est d'avoir un prototype que tu as développé avec ton équipe. Et en fait, le prototype qu'on développe initialement, c'était une extension Chrome. En fait, on se dit, si tu vas sur Asos, tu as un petit une extension Chrome que tu télécharges, c'est un petit t-shirt, tu la mets sur ta barre de navigation, tu trouves un vêtement qui te plaît, genre je sais pas, de n'importe quelle marque, tu cliques dessus et on te l'analyse. Et on faisait déjà ça, du coup c'était trop bien déjà comme idée, tu vois. Tu fallait juste télécharger l'extension Chrome et nous en fait on prenait la matière, on prenait la marque et on t'analysait en fonction de la matière et des informations qu'on pouvait choper, genre catégorie de produits et tout, on pouvait t'analyser et te donner des premiers conseils. Donc déjà ça permettait, tu vois, de valoriser les matières plus éco-responsables, les labels et tout. Donc on fait ça et en fait à partir de ça, on a fait un concours pour intégrer un incubateur qui s'appelle Make Sense. Et on a intégré Make Sense. Et c'est là où on a tout appris, je pense. On a tout appris. Franchement, on a eu beaucoup de chance avec Marguerite parce qu'on a toujours été accompagnés, en fait. Parce que, tu vois, on a fait le proto. Marguerite, elle est accompagnée. On était accompagnés. Ensuite, on fait le proto. On participe à un concours avec ce prototype. Et ils nous disent, OK, on était les plus jeunes. Hein. Franchement, il y avait des boîtes dans notre incubateur qui avaient déjà du chiffre d'affaires, qui avaient déjà une application. Nous, on n'avait rien. On avait juste un prototype qu'on a abandonné, d'ailleurs. Mais au moins, on était accompagnés de tout. Parce que franchement, tu vois, on avait 24 ans. On n'était pas...
Vous sortiez d'école.
Ouais, on sortait d'école. Et en plus, tu vois, on sortait d'école, on était ingénieurs. Pas du tout dans la com, pas du tout dans le biz, pas du tout dans l'entrepreneuriat. On connaît rien à la finance. On n'était même pas développeurs, donc on avait tout à apprendre pour le coup. Et là, on se fait super bien accompagner pendant 8 mois. Après, ça continue. On va chez Showroom Privé, on se fait accompagner chez eux. On a des mentors. Voilà. Et en fait, ça se passe comme ça. Donc en gros, on construit l'application. La première année, chez Make Sense, notre objectif, c'était de créer le vrai prototype. Donc ce qu'on a fait, c'est... Il y avait deux gros objectifs pour genre juillet. Par contre, on est quand même... comme on avait signé un truc avec Marguerite, tu vois... On était en mode plan d'action, tu vois. Objectif, juillet, sortir un proto, avoir une communauté et des chiffres. Et on se disait même, si d'ici à décembre, on n'a pas réussi, on arrête. En fait, il fallait se donner des deadlines, tu vois. Ouais. On se donnait des deadlines, on ne peut pas vivre sans argent tout le temps. Donc,
parce qu'elle, du coup, elle n'avait pas de chômage.
Non, pour le coup, Marguerite, elle n'avait pas. Donc, tu vois, là, on se disait, en gros, on va avoir un an, enfin, tu vois, un an et demi max. Mais c'est notre deadline. Donc on s'est fixé une deadline. Et du coup, tu vois, de cette deadline, tu crées des objectifs intermédiaires où tu dis, OK, donc on a une deadline pour décembre. Ça veut dire que mi-année, il faut qu'on ait un prototype et qu'on ait commencé à avoir des premiers chiffres pour que, en fait, en décembre, on ait des bons chiffres. Parce qu'on va avoir une phase d'amélioration. Tu vois, c'est comme ça qu'on construit le truc. Donc, la première phase, c'était, on construit notre communauté. Tu vois, les 1000 personnes qui avaient répondu initialement à l'enquête, on les recontacte. On leur dit, maintenant, on va construire la solution avec vous et on va la tester avec vous. On va vous demander quels sont les critères qui sont importants pour vous, pour mieux consommer. On va vous demander quels sont vos freins, parce qu'on a besoin de savoir ça. On va demander aussi quelles sont vos habitudes de consommation. Est-ce que vous achetez en grande distrie? Est-ce que vous achetez en fast fashion, est-ce que vous achetez en fripe, est-ce qu'on leur demandait ça, on leur demandait quelles étaient, franchement, énormément de questions en plus sur les habitudes de consommation, genre quels sont vos budgets, est-ce que ça c'est cher pour vous, enfin tu vois, plein de trucs comme ça. Et ça nous a permis de comprendre qui était notre cible, en gros, quels sont les utilisateurs qu'on souhaite aider, enfin là c'était les consommateurs qu'on souhaite aider, parce qu'ils n'étaient pas utilisateurs encore. Et en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que finalement, les gens qui avaient répondu à l'enquête, c'était pas forcément les... des... En fait, on s'attendait à ce que ce soit un peu des écolos qui achètent déjà vachement en fripe, qui soient très sensibles à ça, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Genre, en fait, c'était des gens qui allaient acheter des fois, tu vois, chez Monoprix, chez Carrefour même, qui achetaient bah, des marques classiques, quoi, que tu retrouves dans les rues. Et très peu, finalement, de gens qui achetaient des marques éco-responsables. En fait, quand tu leur demandes est-ce que tu connais des marques éco-responsables, ils ne savent pas répondre à ça. Les seules marques qui revenaient, c'était genre le slip français, Veja. Les deux marques qui revenaient, tu vois, à l'époque. Donc, en fait, on se dit, finalement, en gros, c'est pas des gens très écolos, très engagés, qui connaissent le secteur. Nous, en fait, les gens qu'on va aider, c'est des gens qui achètent, bah, qui vont dans des centres commerciaux, qui vont dans la rue de Rivoli, qui vont aux Halles, qui vont bah, dans les endroits où tout le monde va, en fait, pour acheter des vêtements. Et du coup, eux, ils ont pas... déjà, ils ont des a priori sur la mode éco-responsable, c'est cher. Et en même temps, ils savent pas pourquoi, quand on dit H&M n'est pas éco-responsable, ou H&M c'est de la fast fashion, ça veut dire quoi, on sait pas. Et du coup, la première chose, c'était de se dire, bon bah, c'est quoi les critères qui sont importants pour toi? Finalement, ce qui est revenu, c'était l'environnement, les conditions de travail, la santé et les animaux. Et on va analyser les marques que toi, déjà, tu connais au travers de ces thématiques-là. C'était ça qu'on s'était dit. Et ça... Quand on va analyser plein de marques, ça va permettre de se rendre compte pourquoi est-ce qu'on dit que c'est de la fast fashion et que c'est pas forcément bien, pourquoi on dit que c'est pas forcément éco-responsable et que c'est pas forcément bien, et au contraire, on va essayer de montrer aussi pourquoi est-ce que quand on dit qu'une marque est éco-responsable et que là vraiment on la conseille, elle est vraiment bien. Mais à partir de trucs objectifs, quoi, en fait. On va comparer de tout le temps de la même manière. Donc on se dit, voilà, à partir donc de ces 6 mois d'enquête, on fait beaucoup d'enquêtes, on leur demande plein de questions sur leurs critères, leurs habitudes, et après, on leur demande même, est-ce que vous voulez que ce soit une app, est-ce que vous voulez que ce soit une extension, est-ce que vous voulez que ce soit un blog, on leur demande même comment, genre sous quelle forme on vous donne l'info. Et ce qui est revenu le plus, c'était l'application. Pourquoi ? Parce que bah, le smartphone, tu l'as sur toi tout le temps. Tu peux, dès que tu découvres une marque, tu peux l'analyser. Dès que tu veux scanner un code barre, tu peux le faire. C'est ça qu'avaient en tête les gens et tu peux l'utiliser à tout moment. L'extension Chrome, c'est revenu aussi en fait, parce que les gens disaient, moi j'achète aussi en ligne, mais beaucoup moins. Donc on s'est dit, on va focaliser sur l'achat en physique dans un premier temps. Et ensuite, on pourra aller sur le en ligne. Mmh. Et en plus de ça, avec une application, potentiellement, tu peux déjà, tu vois, une marque que tu découvres en ligne, tu peux aussi l'analyser. Donc, finalement, c'est ce qui vous convient mieux. Parce que nous, l'extension Chrome, il y a plein de gens qui nous disaient, ah, trop cool et tout, mais comment je fais pour l'avoir sur mon tel? Mais je l'ai pas. Ça n'existait pas, tu vois.
C'est vrai que c'est marrant comme quoi les usages sont différents. Parce que moi, avant, j'achetais que en ligne sur l'ordi.
Ouais.
J'achète pas sur mon tel. Et j'achète plus trop en boutique, quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que l'extension Chrome, je trouve ça très malin. Mais bon, après, il y a aussi le truc, je me dis, une fois que t'as flashé sur un ensemble, est-ce que tu vas vraiment aller cliquer sur le petit t-shirt? Enfin, moi, je le ferais, tu vois, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Mais je me dis, c'est vrai que si en amont, tu regardes sur l'app une marque, bah en fait, moi, de toute façon, les marques qui sont hyper mal notées, maintenant, je les regarde même plus, tu vois. Donc, je ne vais même pas être tentée d'eux.
Ouais.
Mais ça, c'est un truc que je me demandais parce
Pardon, sur l'extension, juste pour info, un truc qu'on faisait et qui était trop bien, c'est les alternatives. En fait, directement, quand c'était mal noté, pour le coup, en fait, franchement, c'était quand même trop, trop bien.
Ouais.
Parce que, du coup, nous, en fait, on enregistrait les fiches. Genre, toi, si tu cliquais sur le petit t-shirt, ça s'enregistrait dans notre base de données. Du coup, on gardait la photo, on gardait les notes et tout.
Et
si jamais, toi, tu cliques sur un autre truc et que tu repères un truc bien mieux noté qui est une robe fleurie, et ben en fait, potentiellement, moi, s'il y a un autre utilisateur qui trouve un truc moins bien noté, je pouvais lui proposer cette alternative.
Donc, c'était quand même bien. Pas mal du tout. Ouais. Bah, franchement, pensez peut-être à la...
On va y réfléchir.
À la faire remettre.
Après, en fait, franchement, l'extension Chrome, le problème, c'est que franchement, ça reste compliqué. Enfin, c'est quand même une techno particulière, tu vois. Ça a été peut-être un petit peu démocratisé avec Ecosia, et encore, mais franchement, qui a des extensions Chrome? Enfin, franchement, à part Adblock.
C'est vrai qu'il faut être convaincu, Puis comme tu dis, vous avez vraiment étudié la question, vous avez interrogé, c'est la meilleure façon de savoir. Et je me demandais du coup, parce que comme tu dis, vous avez fait vachement d'enquêtes, vachement d'analyses et tout. Moi, comme j'utilise l'app, parfois je suis frustrée parce qu'il y a des marques, elles sont pas notées, parce que c'est marqué que la marque vous a pas donné d'infos. Et en fait, je me dis, mais en vrai, vous avez pas moyen de savoir, parce que souvent, notamment, je regarde les lieux de production, ils sont rarement indiqués. Et est-ce que vraiment vous êtes obligé que la marque vous l'ait dit ?
Alors en fait, notre démarche, c'est de se dire, quand il y a beaucoup d'utilisateurs qui recherchent une marque en particulier. En fait, vraiment, c'est tout le temps les mêmes marques qui sont recherchées, tu vois. Genre, au début, c'était H&M, c'était Zara, après c'était Adidas, Levi's. C'est ça, les top 5, tu vois. Et en fait, nous, on a une liste de priorités, du coup. Donc, ce qu'on se dit, c'est notre rôle, c'est d'informer nos utilisateurs. Et on ne peut pas tout évaluer. Il y a plus de 3000 marques qui ont été demandées aujourd'hui, tu vois. On ne peut pas tout évaluer, mais on va faire le mieux qu'on peut. Donc, s'il y a beaucoup de requêtes sur certaines d'entre elles, on va le faire en priorité. Donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, Zara, moi, ce que je vais faire, c'est que je me dis, on va essayer d'informer les consommateurs sur cette marque. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller investiguer justement sur leur site, sur leur rapport. On va contacter d'autres sources, etc. Et tout ce qu'on peut avoir comme données qui soient fiables, on va les mettre sur l'application. Tout le reste, c'est-à-dire tous les engagements, les trucs, les blabla, 2040 et tout, ça, on ne le prend pas. Du coup, c'est sûr que quand tu as une marque, et il y en a qui communiquent sur rien, et qui, par exemple, font du made in Bangladesh et en même temps du made in Italy et tout, mais en fait, tu peux rien dire. Il n'y a pas de pratique que tu peux transmettre aux consommateurs. Et ça, nous, on pense que c'est un gros problème parce que le manque de transparence, c'est le pire. C'est comme, tu vois, on disait au tout début, les problèmes, c'est quoi? C'est que le manque d'information, ça permet de maintenir le système tel qu'il est, en fait. De maintenir le travail forcé, le truc et tout.
Totalement.
Exactement. Et du coup, bah, le fait qu'une marque ne communique sur rien, nous, on considère que c'est soit parce que elle n'a rien d'intérêt à communiquer. Donc, en gros, ces pratiques, elles ne sont pas forcément communicables parce que ce n'est pas bien ou parce qu'il n'y a rien... Enfin, ils ne font rien, en fait, pour maîtriser leurs risques, tu vois, et tout. Ils ne font pas de trucs pour réduire leur impact, etc. Soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou parce qu'ils ne l'ont pas fait ou quoi. Mais ça, du coup, ils nous contactent. Nous, on les contacte 30 jours avant les référencer, en fait. Toutes les marques qui sont référencées sur Claire Fashion, on les a contactées. Elles ont toutes été contactées, relancées. Chaque mois, on les relance. Donc, c'est les marques qui sont référencées, elles sont au courant qu'on existe. Si elles veulent se référencer, si elles ont des choses à valoriser, elles peuvent toutes le faire. Hein. Donc, une marque, si elle a des trucs à valoriser, elle peut tout à fait se dire, ce sera toujours mieux que d'avoir zéro. Tu vois,
c'est clair.
Ce sera toujours mieux que d'avoir être sur l'app avec zéro. C'est ce que se disent beaucoup de marques. Il y en a qui sont très honnêtes avec moi, qui font un call avec moi, je leur présente et tout, et elles me disent... être très honnête, je peux pas citer de marque parce que après elles vont pas participer, tu vois, et j'ai tout intérêt à faire en sorte qu'elles soient quand même, tu vois, qu'elles soient à terme transparentes. Mais pour le moment, elles me disent, je vais être honnête, aujourd'hui, en fait, si on participait, ça changerait rien la note. En fait, on a rien. Mais du coup, au moins, grâce à vous, bah, c'est devenu un sujet urgent, tu vois, dans notre boîte. Du coup, on est en train de mettre un plan d'action, on a recruté des gens, tu vois. Et bah, moi, je suis trop contente. Du coup, pour le moment, les marques qui sont mal notées, bah, il y en a plein qui sont en cours, qui mettent en place des plans d'action. Et il y en a certainement même, en fait, c'est même pas dans leur modèle économique, tu vois. Mmh. Ça se trouve, elles ont aucun intérêt à le faire. Moi, je pense souvent au luxe, parce que le luxe, en fait... on sait qu'ils nous détestent un peu. Mmh. on sait qu'on font du lobbying contre nous. On se fait appeler... On a eu des rendez-vous, par exemple, avec le ministère et tout, parce que des marques de luxe avaient parlé de nous, notamment. Et en fait, on sait qu'ils nous aiment pas trop. Pourquoi ? Parce que la valeur ajoutée de leur marque, elle est fortement liée à ce que les gens pensent de ce qu'ils font. Et tu vois, t'as des marques de luxe qui créent un truc de secret et tout. De temps en temps, ils te montrent un peu des fleurs. De temps en temps, ils te montrent des usines magnifiques et tout. Mais ils te montrent pas tout, tu vois, ils te communiquent sur rien. Sauf que du coup, toi, dans ta tête, tu te dis que tout doit être fait aussi, de manière aussi magique. Sauf que quand tu connais la réalité, ça les dessert, en fait. Du coup, ils ont aucun intérêt à participer. Et je les comprends, tu vois. Franchement, moi, une marque qui fait rien de plus et c'est que du market... et qui a une valeur ajoutée, tu vois, en termes de perception, si je demande aux consos, tu penses que cette marque, elle est éco-responsable ou elle sera bien notée, et qu'ils me disent oui, mais en fait, elle est moins bien notée, c'est sûr que les marques, elles n'ont pas intérêt, tu vois, à participer. Mais c'est un gros problème, ça montre
c'est
vraiment...
C'est leur problème, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est un gros problème, enfin, ça... En gros, moi, c'est pour ça que je me dis, ces marques-là qui ne veulent pas participer, c'est parce qu'il y a une raison, quand même, tu vois.
C'est clair.
Franchement,
non, c'est comme tu dis, pour moi, c'est un service public que vous rendez, hein. Donc après, comme tu dis, l'idéal, ce serait qu'ils s'alignent et qu'à terme, ils fassent tout pour que leur note s'améliore, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, là, ça fait 2 ans que vous êtes à plein temps dans l'aventure. Mmh. Donc, c'est que la deadline a été un peu un succès.
Ouais.
Comment vous avez trouvé un moyen de faire vivre le projet? Ouais. Je crois que vous avez commencé à recruter. Si tu peux comment parler un peu là, juste, sûr, voilà, de ce que ça devient et de comment tu l'imagines pour la suite.
Ouais. Alors du coup, ce qu'on a fait, donc 6 premiers mois, c'est vraiment enquête, construction avec la communauté et tout. Après, on a lancé le prototype. Et en fait, là, on est passé, tu vois, de 2000 personnes à 15 000. En fait, le prototype, nous, qui était un lien fermé, c'était un truc tout pourri, quoi. Franchement, c'est un lien que tu t'es... Enfin, t'es allé sur notre site pour récupérer le lien et tu pouvais le mettre en favori, tu vois. C'était pas forcément bien. Mais en fait, ce truc-là, les gens le partageaient, la presse en parlait et tout. Alors que c'était vraiment un truc...
C'était
pas fini, quoi.
Ouais.
C'était bien avant qu'une V1, tu vois. C'était même pas la V1 de l'app. C'était même pas dispo sur les stores et tout.
Ouais.
Et, mais ça, c'était déjà, en fait, c'était déjà utile.
Ouais.
Les gens, ils avaient déjà des infos sur The Couples, sur des marques et tout. Et ils trouvaient ça trop bien, en fait. Ça leur permettait déjà de faire des choix de marques et tout. D'analyser, de comprendre aussi les labels, de comprendre les matières et tout. Et en fait, du coup, ils en parlent à leurs amis, nanana. Et tu vois, en 6 mois, on a eu, je sais pas, je crois qu'on était vraiment à 12 000, tu vois. On est pas
six mois,
En fait, ça paraît pas énorme. Enfin, moi je trouve que c'est énorme parce qu'en fait, on n'a jamais fait de com. Tu vois, on était deux. Nous, on était là pour construire le produit. Non, en plus, on était des ingés et tout. Donc, c'était notre rôle, c'était pas de à ce moment-là, c'était d'améliorer la solution pour qu'elle soit sortable, mais pas forcément de communiquer. Et en fait, on était juste les gens en parlaient autour d'eux, la presse de temps en temps en parlait, ils trouvaient ça cool, et ils voulaient faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens dans notre communauté pour construire avec nous, tu vois. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces chiffres là au début on s'est dit, mais comment on va faire pour se rémunérer, comment on va faire pour continuer? Donc on s'est dit, il y a plusieurs solutions. La première, ce serait de faire payer les marques. On s'est dit, c'est hors de question. En fait, si on devient un évaluateur qui est payé par les marques, après il va y avoir un conflit d'intérêts parce que les marques, elles vont nous dire, moi je veux que vous m'évaluez sur ça, je veux que ce soit affiché ça comme ça, nanana. Je dis, vas-y, on négocie jamais là-dessus. Les marques, elles, ça sera gratuit pour elles de se faire évaluer, d'être transparente. Nous déjà, on considère que c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, c'est censé être, moi je pense que vraiment ça aurait dû être l'État qui créer ce genre de truc. Moi j'adorerais que ce soit repris d'ailleurs par l'État, franchement c'est mon rêve. Je sais que ce serait pas possible, mais voilà.
Vous avez essayé de contacter Raphaël Glucksmann?
Ouais, j'aimerais trop, mais il nous répond pas.
Ouais. Non, mais moi je l'ai contacté pour l'heure sur le podcast, j'ai pas encore eu de retour. Donc bon, je pense qu'il doit être très très sollicité. Mais je pense que moi je le vois bien faire ce reportage là qui serait diffusé sur toutes les chaînes sur la réalité de l'industrie textile. Raphaël, si tu nous écoutes.
Ouais, j'aimerais trop. Franchement, en plus, on a lancé un truc aussi. Il a beaucoup parlé de la population ouïghour, là, qui est en ce moment
persécutée.
Enfin, c'est vraiment de l'esclavagisme moderne. Et c'est dans le textile, notamment. Et nous, y a pas mal de. Il y a eu 40 marques qui ont été citées. Il y en a 13 qui contribuent chez nous. Donc, on leur envoie des messages pour justement qu'elles s'engagent aussi. Donc, on participe à ça. Il y a déjà des réponses d'ailleurs de CA, de Patagonia qui justement s'engagent et tout.
Patagonia ?
Ouais.
Que j'imagine pas du tout impliqué dans ce genre de scandale.
Ouais,
quoi.
Ils ont été cités aussi, du coup. Ouais. Ouais. Et du coup, on a créé une sorte de tableau qui récapitule un peu les engagements qu'ont pris les marques vis-à-vis de ça. Et du coup, on a essayé de contacter Raphaël Glucksmann justement pour justement, parce qu'il travaille en ce sens-là aussi. On s'est dit que ce serait bien au moins qu'on partage l'info, tu vois.
Ouais.
Mais bon, voilà. Je sais plus ce que je disais.
Bah, ouais, du coup, je trouve que ça. Next step, toi, t'aurais aimé que ce soit l'État, mais ça.
Voilà, donc c'est pas possible. Donc nous, on s'est dit, on va pas faire payer les marques, ça sera gratuit pour rester indépendant. Comment on fait du coup maintenant? En fait, on s'est dit, soit on demande aux gens de nous soutenir, tu vois, les utilisateurs de notre communauté, mais en fait on s'est dit, l'application aujourd'hui on n'est pas hyper fiers non plus, on la considère pas encore suffisamment bien pour être utile. Peut-être qu'on demandera ça le jour où ça sera utile, tu vois, et on sera dans ce cas là tu vois, on est un média un peu comme Mediapart, on est un média indépendant, et si, pour de l'information utile tu peux faire des dons, tu vois, ça on peut l'imaginer. Mais on s'est dit, dans un second temps, l'app elle est pas encore suffisamment pertinente, sortable, utile, donc il faut qu'on améliore pour pouvoir faire ça. À côté de ça, on se disait, mais pour qu'elle soit utile, sortable et tout, il faut qu'on recrute, en fait. On peut pas le faire juste à deux, tu vois, genre, c'est pas possible. Donc, on se dit, on fait un crowdfunding. Après, on se dit, mais si on fait un crowdfunding, ça va juste nous rémunérer, nous. Mais on va pas pouvoir recruter. En fait, c'est un projet qui est monstrueux. Parce que, soit, du coup, on fait un crowdfunding de 30 000 euros, ce qui est déjà beaucoup en crowdfunding, soit, on est ambitieux et... Et en fait, on lève beaucoup plus. Et là, en fait, on a eu un déclic avec Marguerite. On s'est dit, en fait, si on lève 30 000, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'argent pour à peine 8 mois toutes les deux. 8 mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer? On aura un petit peu plus d'utilisateurs, pas plus que ça. L'application sera un petit peu mieux, mais pas tant que ça. Est-ce que on va avoir l'impact qu'on souhaite avoir? On se dit finalement, non. En fait, pour des raisons d'impact, il va falloir qu'on soit ambitieuse. Et franchement, en plus, c'est vraiment un déclic. Enfin, franchement, c'est trop marrant parce que nous, je pense qu'à la base, Marguerite et moi, vraiment, on est des ingés, tu vois. On n'est pas derrière des trucs de genre Startup Nation, entrepreneuriat, ambition et tout. C'était pas notre truc. C'est juste que là, pour avoir un impact qui est fort, on a besoin 10 000 personnes pour convaincre Adidas d'être transparent, ça sera jamais suffisant, quoi. Il faut qu'on ait 100 000 personnes, tu vois. Pour convaincre Zara, pour faire bouger les lignes, il ne faut pas qu'on se restreigne à une niche de personnes, en fait. Il faut qu'on démocratise le truc, il faut qu'on soit un jour potentiellement, tu vois, 500 000, 1 million, tu vois. Et pour ça, il faut des moyens. En fait, il faut des moyens. Du coup, on s'est dit, en gros, tu vois, on prend la casquette. C'est vraiment ça, genre, on s'est dit, OK, on accepte de prendre cette casquette où on se dit, on va être ambitieux pour atteindre notre mission. Et du coup, ça a changé tout parce qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on soit ambitieux. On se met dans ce rôle-là. Du coup, on devient des entrepreneurs et on va lever des fonds.
Okay.
Et là, on s'est dit, on passe dans un autre truc. C'est on va lever des fonds auprès de Business Angel. On est une startup avec un potentiel qui est fort. On va avoir un impact qui est fort. On peut avoir un impact. Tu vois, au début, on se disait à Paris, tu vois. Après, on s'est dit en France. Après, on s'est dit, mais en fait, pas que en France. En fait, il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Donc, c'est un impact international potentiellement. Les marques avec qui on parle dès maintenant, elles sont internationales. Et elles-mêmes, elles nous disent, mais c'est quoi votre ambition? Et nous, on ne comprenait pas cette question au début. Et maintenant, on comprend pourquoi elles nous disent ça. Parce qu'en fait, elles se disent, moi, si je participe avec une marque, avec une application, je veux potentiellement que ce soit accessible partout. Parce que moi, quelqu'un qui est en France et qui va en Chine, quand il va dans ma marque, j'ai envie qu'il retrouve les mêmes infos, tu vois. Donc, il faut que vous soyez ambitieux. Même eux, ils nous disent...
Pour eux, que ce soit partout, quoi.
C'est ça. Même eux, ils nous disent, il faut que vous soyez ambitieux. Tout le monde nous dit, en fait, finalement, il faut que vous soyez ambitieux. Donc, on se dit, nous, en vrai, franchement, on est là pour coordonner le projet, tu vois. On nous donne cette casquette-là, on l'accepte, on le fait, on va lever des fonds. Donc, 30 000, ça va pas nous suffire. Au début, on dit 200 000. On parle avec quelqu'un qui nous dit, non, mais levez pas 200 000. Vous savez que ça prend autant de temps de lever 200 000 que de lever 400 000. On se dit, OK. Il nous dit, vous allez vous faire payer combien et tout, vous allez recruter quoi? Il me dit, non, mais vous êtes vraiment pas ambitieuse. Nous, on trouvait que c'était énorme, 200 000 à l'époque, tu vois. Et du coup, là, il nous dit, non, mais de toute façon, vous savez, les filles, il faut lever 400 000. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde lève autant, tout le temps, au même moment. C'est comme ça, en fait. Il y a crowdfunding, tu lèves entre 10 000 et 60 000. Ensuite, la deuxième phase, c'est entre 400 et 600 000. Et la troisième phase, c'est ça. Rentrez dans le moule et ça va bien se passer et vous prendrez autant de temps. Si vous levez 200 000, il y a peut-être des investisseurs qui vont se dire que vous n'êtes pas assez ambitieuse. Ils vont pas vouloir... Ils vont dire que vous n'avez pas compris le truc, en fait. Du coup, on s'est dit, OK, on lève 400 000. Et par contre, on veut s'entourer de personnes qu'on admire. Et surtout, pas de marque et pas de distributeur.
Okay.
Hyper difficile parce que, tu vois, nous, les gens qui comprennent le mieux, on va dire, notre business, l'intérêt, l'impact, c'est soit les consommateurs, soit des marques et des distributeurs. Du coup, on s'est dit, c'est qui les personnes qu'on admire et qui sont entrepreneurs, qui ont créé des boîtes qui sont assez proches des nôtres, dans le sens où potentiellement ils ont changé des façons de penser, des modes de consommation, des choses comme ça, des plateformes, voilà. Et en fait, on a pensé, tu vois, par exemple à Blablacar. On s'est dit, mais Blablacar, tu vois, nouveau mode de transport, ça a mis du temps. Il n'y avait pas de business model au début. Et ils ont accepté de jouer le jeu comme ça. Et maintenant, ça marche trop bien. Du coup, on a contacté Blablacar. Il nous a répondu et il nous a suivi. Mais vraiment, c'est comme ça, hein, tu vois. On leur a dit, voilà, on fait ça. On a besoin de ça, temps. Et du coup, est-ce que ça vous dit de participer? Nous, on pense que vraiment, vos conseils nous intéressent. Vos expériences nous intéressent. il nous dit, bah, franchement, je comprends. Et surtout, faites pas ce que nous, à un moment, on a fait avec les collectivités, vendre n'importe quoi. Suivez votre cap, votre mission. Et on s'est dit, c'est ce qu'on veut. Tu vois, des investisseurs qui sont comme nous, tu vois.
Ouais,
et donc, après, on a eu d'autres investisseurs comme ça. Donc, on a un des fondateurs aussi de La Fourchette, à la base. On a... Enfin voilà, il y en a un certain nombre. Il y a des gens dans les médias, donc par exemple de Webedia, il y a des gens dans des startups plus de création, de développement d'applications, etc.
D'accord, voilà. Donc c'est cool, vous avez pu choisir qu'au final vos investisseurs, ce qui est une grande chance.
Bah ouais, mais je pense qu'en fait, franchement, ça devrait tout le temps se passer comme ça quand tu fais des levées de fonds auprès d'investisseurs, de business angels en fait, parce que en fait, tu cherches à t'entourer de personnes que tu admires et dont tu veux vraiment les conseils, tu vois.
Ouais, c'est là, ça, c'est pas juste de l'argent, c'est un accompagnement, comme tu dis, vous avez été accompagné, vous êtes... Enfin, vous
mais oui, mais moi, je l'ai... Enfin, moi, je, tu vois, aujourd'hui, j'avais un message encore de mes invests, ils nous suivent énormément, ils nous conseillent. Bon, avant de clôturer notre levée de fonds, j'ai un investisseur qui m'a appelé quand même pour me dire, Rim, est-ce que tu peux me répéter quelle est la stratégie de chiffre d'affaires, tu vois? Je lui dis, bah, c'est très simple, pas de chiffre d'affaires en 2019, on vendra pas aux marques, enfin tu vois, les marques seront évaluées gratuitement, et on y réfléchit, voilà, pour le moment, l'idée, c'est de développer l'application, qu'elle soit utile dans un premier temps, et après on va... Il m'a dit, c'est bien ce que je voulais entendre, c'est bon, j'avais peur que tu changes au dernier moment par pression des autres investisseurs, et avant de signer, je voulais m'assurer que ce soit bien ça, tu vois. Et tu vois, t'as des... enfin, quand tu trouves des investisseurs avec qui ça match, franchement, c'est merveilleux, tu vois.
Ouais,
donc je le conseille trop même, en fait, et ça a changé un truc aussi chez nous, c'est que quand t'as les conseils aussi, c'est comme si t'avais des consultants qui étaient incroyables.
C'est vrai.
Enfin, non, mais c'est
incroyable. Et qui croient au projet et qui veulent ou qui l'avancent, c'est dans leur intérêt maintenant, en fait, aussi. Hein.
Exactement. Nous, on fait des ateliers avec eux, tu vois. C'est... Par exemple, il y a Cyril Reboul qui est incroyable. Il travaillait justement chez Webedia. Il a développé... Je sais pas si tu connais Webedia.
Ouais.
Il a développé Webedia au Brésil, en fait, dans plein d'autres pays. Et il nous conseille énormément, en fait, sur l'affiliation, sur la communication, sur les médias digitaux, sur le développement international. Tu l'appelles... Enfin, moi, je l'ai appelé il y a genre 2 semaines, là. Je lui ai demandé... Enfin, je lui ai dit, est-ce que tu as 1 heure? Je voulais juste te parler d'acquisition. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci, on passe 2 heures ensemble, tu vois, à échanger.
Trop cool.
Et en fait, c'est vraiment comme si tu avais déjà, ils t'aident financièrement parce qu'ils y croient et parce que eux, en fait, c'est des entrepreneurs. On les a aidés et ils veulent, tu vois, continuer ce truc-là. Et en plus, ils aimeraient bien monter plein de projets, ils n'ont pas le temps d'en monter plein. Donc finalement,
ils
tu vois,
un peu par ils,
exactement.
Ouais.
Et en plus de ça, c'est comme si vraiment, t'avais un consultant qui est mais le top du consultant. Enfin, je veux dire, Cyril Reboul, si c'était un consultant, je pense qu'il serait à 5000 euros la journée, tu vois. Et il est là pour moi, pour m'aider. Et il a intérêt à ce que j'aille bien, etc. Donc, c'est quand même trop bien. Donc, même pour des gens qui montent des boîtes, tu vois, dans la mode et tout, moi, je conseille trop, mais je dis tout le temps, allez voir, même si c'est pas dans le cadre d'une levée de fonds, allez voir. Tu vois, si tu montes, je sais pas, une marque de lingerie, va voir le style français et tu lui dis comment il a créé ses trucs. Et franchement...
Je l'ai eu sur le podcast.
Enfin, tu vois, les gens sont trop cool, ils vont te répondre. Et après, si en plus de ça, un jour, t'as besoin d'argent, peut-être qu'ils peuvent t'aider, tu vois.
C'est vrai. Bon, bah, c'est trop cool, je pourrais continuer encore longtemps, mais l'heure tourne. Au pire, on fera une deuxième version. Maintenant, c'est ce que je fais, je propose des deuxièmes épisodes quand il y a trop de choses à dire. Mais du coup, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Pour moi, c'est d'oser faire vraiment ce qu'on veut. De considérer que son temps, il est important et que faut pas être, du coup... Faut pas faire des choix en étant dicté par les autres, en fait, par peut-être même sa famille, ses amis, ou la norme, hein, tout simplement. C'est-à-dire celle de la norme de « il faut trouver un travail, un CDI », etc. Je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est vraiment faire les choix, prendre des décisions pour soi-même, sans penser à ça, et pour être heureux, quoi, en fait.
Trop cool. Bah, merci beaucoup Rim d'être venue sur InPower, ça m'a fait grave plaisir et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent sont actuellement en train de taper Clear Fashion sur l'Apple Store ou sur Android pour télécharger l'app. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux les rediriger peut-être?
Bah, vous pouvez aussi aller sur Instagram. Du coup, on est aussi sur Insta, c'est Clear Fashion App. Et aussi, s'il y a des personnes qui sont hyper motivées, on a des ambassadeurs chez Clear Fashion. Donc il y a des personnes qui nous aident même, qui on leur donne des missions pour nous aider en fait à convaincre les marques à participer plus. Donc des fois il y a des missions où l'idée c'est de contacter, on contacte tous par exemple H&M, on contacte tous Nike, etc. Donc vous pouvez aussi aller sur notre site pour ça si jamais vous voulez participer en tant qu'ambassadeur.
Ok, super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite.
Merci beaucoup Louise.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Rim. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @clearfashionapp et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qu'ils pourraient aider ou informer et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.